Laudetur Jesus Christus.
Fumée noire hier soir dans le ciel de Rome. Les 133 cardinaux électeurs seront de retour dans la chapelle Sixtine d'ici une heure pour poursuivre en conclave les scrutins visant à choisir le nouveau pape. Le détail de cette nouvelle journée de vote à suivre. Avant cela, nous entendrons l'euphorie des fidèles place Saint-Pierre. 45 000 personnes étaient réunies hier soir dans l'attente de connaître l'identité du successeur de Pierre. L'église est entrée en silence pour laisser toute la place à l'Esprit Saint. Retour dans ce journal sur cette entrée en conclave empreinte de beauté, de solennité, marquée par le célèbre extra omnes et la fermeture des portes de la chapelle Sixtine, lieu le plus scruté du moment. Dans notre dossier, nous nous placerons face à sa fresque monumentale du jugement dernier avec la théologienne italienne Emanuela Fogliadini. Et puis du Burundi aux États-Unis en passant par l'Ukraine, les initiatives de prière pour le conclave sont nombreuses, les attentes des diverses églises aussi. Nous entendrons Monseigneur Timothy Broglio, président de la conférence épiscopale américaine.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous, c'est une minute après 21h sous un clair de lune naissant que la fumée noire a fondu le ciel romain. 45 000 fidèles étaient réunis hier soir sur la place de la Basilique Vaticane pour guetter la petite cheminée posée sur le toit de la chapelle Sixtine. La fumée d'une durée de 6 minutes 30 a ainsi signifié à Rome et au monde qu'aucun cardinal n'avait obtenu les 89 voix nécessaires pour accéder au trône de Pierre à l'issue de ce premier scrutin. Pèlerins et touristes ont commencé à affluer vers Saint-Pierre dès la fin d'après-midi et attendu ainsi plusieurs heures dans la joie, la prière et les chants. Reportage de Marine Henriot.
Le panache de fumée noire s'élève finalement au-dessus de la chapelle Sixtine.
Émouvant, émouvant. J'ai jamais vu une foule aussi immense.
On a beaucoup d'émotions.
Je trouve que c'est magique.
Drapeau sur les épaules, casquette bleue, ce groupe d'une cinquantaine de pèlerins venus de La Réunion tenait à vivre ce moment historique en communion avec les fidèles du monde entier.
C'est une belle grâce d'être ici présent avec tous mes frères et sœurs chrétiens.
Tous les regards sont fixés là sur le Vatican. C'est comme si on vive l'histoire, mais avec la nouvelle génération en fait.
J'aurais pu attendre encore beaucoup plus longtemps, mais c'est déjà fini.
Un moment de communion, mais aussi de prière, notamment pour aider les cardinaux dans leur discernement.
Le choix est difficile, choisir c'est très difficile.
Ils ont une grosse mission, donc on est là pour les aider.
Tandis que la nuit tombe sur la place Saint-Pierre, devenue le reflet de la diversité de l'Église, on discute des attentes quant au futur pape.
Un pape qui soit proche du peuple, qui apporte des messages d'amour, de paix, qui rassemble.
Il y a un gros travail sur la tolérance.
Avoir un nouveau pape, ça a fortifié la foi. C'est le berger du troupeau du Seigneur, en fait.
Certains reviendront tout à l'heure à la mi-journée pour ce prochain rendez-vous avec l'histoire.
Si Dieu le veut, on sera là.
Reportage de Marine Henriot, cette fumée noire vue depuis la place Saint-Pierre. La cheminée est désormais le seul moyen de communication entre les cardinaux et le reste du monde. Et cette fumée tant attendue est arrivée bien plus tard qu'initialement prévu. Bonjour Jean-Charles Puzzolu.
Bonjour Alexandra.
Comment l'expliquer?
Eh bien écoutez, nous nous sommes basés sur les précédents conclaves pour avoir une estimation de l'heure à laquelle fixait du regard la cheminée de la chapelle Sixtine. On avait tablé sur une plage horaire allant plutôt de 19h à 19h30, mais voilà, pendant le conclave, eh bien le temps est suspendu. Les cardinaux hier après-midi s'étaient retrouvés pour un temps de prière dans la chapelle Pauline, située à quelques dizaines de mètres de la Sixtine. Ils ont ensuite parcouru cette distance en procession, accompagnés par la litanie des saints auxquels il est demandé d'intercéder pour soutenir spirituellement les travaux de ce conclave. Et une fois arrivés dans la chapelle Sixtine, au chant du Veni Creator qu'a été poursuivi la célébration, une invocation à l'Esprit Saint et ensuite la main sur l'Évangile face à la majestueuse fresque du jugement dernier, chacun des cardinaux a prêté serment. Et puis ensuite, ben voilà, le maître des cérémonies a dit ceci.
Extra omnes.
La célèbre formule latine qui invite toutes les personnes extérieures au conclave à quitter la chapelle et les portes de la Sixtine se sont refermées. « À partir de ce moment, tout ce qui se déroule dans la chapelle relève du secret absolu, que seul un pape a le pouvoir de lever. Ceci dit, si on ne peut pas savoir ce qui se dit, on connaît quand même la procédure. Après la fermeture des portes et avant le premier tour de scrutin, le cardinal Raniero Cantalamessa, ancien prédicateur de la maison pontificale, a proposé une méditation aux cardinaux. N'étant plus électeur, il a ensuite, à son tour, quitté la Sixtine avec le maître des cérémonies, Monseigneur Diego Ravelli, laissant seul, avec l'Esprit Saint, les 133 cardinaux face à la lourde responsabilité de désigner un nouvel évêque de Rome.
Et quel est le programme de ce jeudi 8 mai, Jean-Charles ?
Après l'ordiné à la Maison Sainte-Marthe, une nuit de sommeil et le petit déjeuner, qui reste comme le dîner un temps d'échange et de convivialité entre les cardinaux électeurs, qui, je le souligne, n'ont aucun contact avec l'extérieur pendant toute la durée du conclave. Ils vont se retrouver dans la chapelle Michel-Angelesque à partir de 9h30 pour un temps de prière avant de procéder à deux tours de scrutin. Une fumée blanche ou noire est attendue aux alentours de 12h30, je dis bien aux alentours. Idem cet après-midi, début de la session à 16h30 dans la Sixtine et fumée attendue vers 19h30. Et encore une fois, ces horaires sont approximatifs.
Merci Jean-Charles Puzzoli. Et puis en attendant notre édition spéciale qui démarrera dans un peu moins de 2 heures et qui durera jusqu'à la prochaine fumée, nous vous invitons à revivre la beauté et la profondeur de cette liturgie vécue hier en vous rendant sur notre site internet vaticannews.va. Nombreuses sont les églises locales à unir leurs prières en invoquant l'Esprit Saint pour l'élection d'un nouvel évêque de Rome. C'est le cas à Jérusalem, Marseille, Washington, Bruxelles, mais aussi en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire et au Burundi. On écoute Monseigneur Bonaventure Naïmana, archevêque de Gitaga et président de la conférence épiscopale du Burundi.
Nous prions donc pour ce conclave, pour que le Seigneur donne à son église le pasteur qu'il faut en cette période que nous vivons aujourd'hui. Les défis de l'Église que je vois, c'est d'abord quelqu'un qui réalise vraiment l'unité, que l'Église puisse avancer dans la foi, l'espérance, la charité, dans la concorde et l'unité. L'autre défi de l'Église d'aujourd'hui, c'est comment faire face aux problèmes de la mondialité et de la nouvelle éthique mondiale. Je suis confiant parce que l'Église est guidée par l'Esprit Saint et toutes les forces vives de l'Église prient en ce moment pour que nous puissions avoir un pasteur qui puisse conduire notre Église là où le Seigneur la veut.
Des propos recueillis par Françoise Niamien. Des moments de prière sont également organisés en Ukraine martyrisée. De leur côté, les évêques de l'Union européenne invitent chacun à s'unir spirituellement. Et c'est dans ce contexte et en ce 8 mai, jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, que la Comessée annonce la publication d'un volume, Le Pape François et l'Europe, un recueil de discours pour la paix. L'un des grands défis géopolitiques du prochain pape sera de se situer face aux États-Unis de Donald Trump. Les relations entre le pape François et le président américain ont été plus que froides, notamment autour de la question migratoire. Dans un pays où le président a fait parfois du triomphe de la force une valeur qui écrase les plus vulnérables, l'Église a un rôle prophétique à jouer. Nous avons demandé au président de la conférence épiscopale américaine, Monseigneur Timothy Broglio, quelles étaient ses attentes de ce conclave.
Je crois que c'est très important qu'il soit un pasteur parce qu'évidemment, il est l'évêque de Rome. Il faut aussi soigner toute l'Église, un pasteur avec une voix claire sur les vérités de l'Évangile et quelqu'un qui sache prêcher bien le message du salut. On attend quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui sache aussi nous inviter à augmenter notre foi. Et j'espère, je crois aussi qu'on espère quelqu'un qui, évidemment, sache administrer bien l'Église, surtout point de vue administratif, parce que ça c'est aussi important. Au moins quelqu'un qui sache écouter les conseils des experts.
Monseigneur Broglio, les États-Unis, comme d'autres pays, sont un pays très polarisé, où il y a des fractures, des divisions. Est-ce que le prochain pape, vous avez, j'imagine, une attente et une espérance particulière pour qu'il aide à apaiser ces divisions? C'est important cela aussi?
Oui, ça c'est certainement important parce que il faut apprendre d'écouter l'autre et de toujours respecter l'autre comme quelqu'un créé en l'image de Dieu. Et je crois qu'on a perdu cette notion ici.
Monseigneur Timothy Broglio, il répondait aux questions d'Olivier Bonnel. C'est face à la fin des temps et au jugement dernier que les cardinaux vêtus de rouge en habit de cœur ont passé 4 longues heures dans la chapelle Sixtine hier en fin de journée. Une durée monumentale dans un décor qui ne l'est pas moins dans ses proportions architecturales, son exécution artistique et bien sûr dans sa puissante charge spirituelle biblique. Ce théâtre éblouissant est celui des élections papales depuis 1878 de façon permanente. Sa voûte aux 500 mètres carrés et aux 300 personnages ont fait une œuvre qualifié de paradigmatique par Giorgio Vasari, de lumière ayant éclairé le monde plongé depuis des siècles dans les ténèbres. Réalisé quelques années plus tard, sa paroi derrière l'autel illustre en 400 figures damnées ou bienheureuses le grand jugement dernier avec en son centre le Christ en gloire. La théologienne de l'art italienne Emanuela Fogliadini nous livre son regard sur ce lieu que trop humain et divin.
On a l'habitude de se concentrer surtout sur la voûte et la paroisse derrière l'autel peinte par Michel-Ange et quelques aides. Mais à vrai dire, la chapelle était prévue avec un programme beaucoup plus large, bien avant Michel-Ange, avec l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du Nouveau Testament, même les lieux au niveau de l'architecture. Et on sait que les lieux répondent dans les mesures les temples de Jérusalem. Donc il a vraiment en continuité dans l'histoire de Salut qui était pensée et arrivée à des sommets de la chapelle Sistine même.
Comment, par ce chef-d'œuvre, Michel-Ange a-t-il bouleversé les codes bien établis et ordonnés de ce début de la Renaissance?
Surtout dans la voûte, on peut voir que Michel-Ange ajoutait aussi des sibylles, des prophètes, des savantes qui venaient du monde païen et qui étaient convoquées pour rendre louange à l'histoire de Salut. Et dans les jugements derniers, un peu différente dans l'esprit même de Michel-Ange et de l'Église même, parce que était conçu après, à côté un peu de la réforme protestante. Donc Michel-Ange a vraiment bouleversé les codes parce qu'il n'a pas voulu en jugement dernier tout en ordre, tout en règle, mais il a mélangé les démons avec les anges, les sauvés avec les damnés, et donc a voulu dire que la beauté, l'ordre de la Renaissance était plus là, et donc l'Église avait à faire face à un temps plus compliqué. On peut voir des parallèles aussi avec l'histoire d'aujourd'hui, plus compliqué, et je pense que sera très intéressant d'imaginer, parce qu'on ne pourra pas les voir, d'imaginer des cardinaux mettre leur bulletin de vote jusqu'en face du jugement dernier. Donc sera pour eux vraiment très éloquente, très parlante de faire ces gestes, des votes, mais en face d'un jugement qui, voilà, c'est sur terre, mais aussi sur ciel.
Et quelle réflexion sur le corps, l'incarnation en découlerait?
Oui, c'est vrai que, surtout Michel-Ange, qui était sculpteur d'abord, donc quand on lui demandait de peindre les plafonds de la Sistine, était très soucieuse de voir comment manier la technique de la fresque. Et là, il a vraiment donné beaucoup de place au corps, surtout dans les jugements derniers, et il a donné aussi un corps à Dieu le Père. Il n'était pas le premier à faire ça, mais c'est vrai qu'il a fait ça dans les lieux principaux de la christianité catholique. Et là, à partir de lui, beaucoup de gens sont commencés, beaucoup de peintres ont commencé à se sentir libres de représenter Dieu le Père comme un veillard, dans sa façon très anthropomorphe, avec aussi beaucoup de questions théologiques, parce que Dieu reste un mystère, et là, en revanche, Michel-Ange a donné au mystère des visages.
Comment lire la sacralité de ce lieu aussi dans le cadre d'un conclave?
Je pense que c'est vraiment les moments les plus sacrés pour la chapelle, qui, on l'a dit, au fil du siècle, était transformée dans un lieu de passage de beaucoup de touristes. On entend souvent, quand on est dans la chapelle Sistine, silencio, silence, parce que, voilà, les touristes, on oublie un peu la sacralité des lieux, mais dans cette collégialité du conclave, les cardinaux qui s'écoutent l'un les autres, qui prient ensemble, qui cherchent de lire quelqu'un qui peut vraiment être la guide de l'Église catholique pour les années suivantes. Il y a vraiment beaucoup de prières, et les lieux à la chapelle Sistine, on redonne, on peut dire, la possibilité d'être sacré comme était pensé et conçu du début.
Interrogée par Delphine Allaire, l'historienne de l'art et théologienne italienne Emanuela Fogliadini était ce matin l'invitée de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal à partir de 10h30. Émission spéciale Conclave à suivre sur nos ondes, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Belle matinée à toutes et à tous.